enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je souhaite la bienvenue à la deuxième session. Et je crois que cette session ici va être intéressante pour les femmes, parce qu'on va parler de leur mari. Et puis, je remarque que généralement, quand je parle sur le mari, c'est les femmes qui prennent des notes. Et puis, quand je parle sur les femmes, c'est le mari qui prend des notes. Fait que, préparez vos calepins de notes. On va parler de la responsabilité de l'époux chrétien. La raison pourquoi que je commence avec l'homme, c'est parce que je dois vous dire que selon la parole de Dieu, que c'est l'homme qui a la responsabilité devant Dieu d'en faire un succès de sa famille et de son foyer et d'en faire un foyer chrétien. Aussi, je vous mentionne que si vous avez des questions, de bien les noter et on va prendre quelques minutes après la session et vous allez pouvoir demander des questions et on va faire notre possible de les répondre. Proverbe, le 20e chapitre, 25e verset. Proverbe 20-25 dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Je le répète. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et vous savez que lorsque un couple se marie devant Dieu à l'autel, à l'église, et puis il demande à Dieu de bénir leur mariage, je veux que vous sachiez que Dieu, avant de bénir votre mariage, entend ce que vous dites. Puis là, il vous attend, il vous entend les hommes faire des vœux, et des vœux sacrés. Le vœu du mariage, c'est des vœux, je crois, les plus sacrés qui peuvent exister sur la face de la terre, et vous entend dire vos vœux. Et vos vœux contiennent 4 catégories. Premièrement, c'est de aimer. Les hommes, j'ai toute votre attention, c'est de aimer. Deuxièmement, c'est de honorer et respecter. Troisièmement, c'est de protéger. Et quatrièmement, c'est d'être fidèle. Et sur la fidélité, je ne suis pas obligé d'en parler immédiatement, on va en parler demain soir après le banquet. Mais quand même, je dois parler sur aimer, honorer et respecter. Et troisièmement, protéger. Premier engagement que vous avez fait dans vos vœux est ceci, vous vous engagez de l'aimer. Et regardons ensemble ce qu'on comprend par l'engagement d'aimer notre femme dans Éphésiens, le 5e chapitre, versets 25 et 28. Ça, pour les gens qui ont été mariés ici à l'Église évangélique de la Rive-Nord, vont l'avoir entendu, ça, mais quand même, on va vous renouveler la mémoire là-dessus. Éphésiens, le 5e chapitre, versets 25 à 28. Ça dit ceci, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et que vous devriez aimer votre femme comme votre propre corps. Et deuxièmement, vous le savez, et je le répète ici, et je vais le dire assez souvent, que la sécurité de la femme et la sécurité du mariage va selon l'amour que vous démontrez pour votre femme. Une femme qui va se sentir aimée va se sentir dans la sécurité, car je vais vous montrer tantôt que la sécurité de l'homme est dans le Seigneur et la sécurité de la femme est dans son mari, et pourvu qu'elle se sent aimée avec l'amour du Seigneur, elle va se sentir en sécurité. Mais aussitôt que la femme se sent qu'elle n'est pas aimée et que le mari est égoïste, là, la femme est obligée, elle, de prendre la défensive et commencer à se protéger. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes qui se développent dans le foyer parce que la femme n'a plus de sécurité en son mari, elle devient défensive. Et une femme qui devient sa défensive, c'est pareil comme essayer de vivre avec un chat qui est pris dans un coin et va réagir pour se défendre. Puis je ne les blâme pas. Je ne les blâme pas du tout. Je le dis et je le maintiens et je le dis souvent, je le sais, que les femmes veulent être libérées de l'homme aujourd'hui. On enseigne la libération de la femme. Et savez-vous qu'à cause de la mauvaise conception du mot « amour » et qu'est-ce qu'il veut dire, et la façon que les hommes sont égoïstes aujourd'hui, que je ne blâme pas les femmes de vouloir être libérées des gorlots dans lesquels ils sont mariés avec. Je le dis, car je crois que la raison pourquoi que la société va de la façon qu'elle va aujourd'hui, c'est à cause du manque de responsabilité, de fidélité, d'intégrité et d'amour sur l'homme envers sa femme. Pensez-y juste pour un instant. Renversez le rôle pour un moment là, de la société et puis pensez-y pour un peu. Quel genre de société que nous vivrions dans aujourd'hui et dans quelle atmosphère et l'ambiance existerait ici, dans notre pays, si chaque mari aimerait sa femme et demeurait fidèle à elle? Hein? Pensez-y pour un instant. Ça serait presque le ciel sur la terre. Dites-vous, oui, les femmes, voilà, dites amen les femmes, pour te entendre. Appuyez-moi. Voyez-vous? Fait qu'il faut que je maintienne que la raison que nous avons la confusion et les problèmes et les difficultés dans la société, et dans les écoles et au travail, et parmi le gouvernement, et la violence et la haine et les problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause que l'homme ne prend pas sa responsabilité devant Dieu et devant sa famille. Et c'est pour cela que je commence par les hommes, et à chaque fois que je vous parle, je me parle à moi aussi. Lorsqu'on parle de mari, aimez vos femmes, il faut réaliser que le Nouveau Testament a été écrit originellement en grec. Et pour le mot amour, il y a trois mots grecs pour décrire le mot amour, que nous servons pour le seul mot en français. Et c'est eros, philios et agape ou agapé. Ça, c'est les trois mots qui démontrent le mot amour. Et quand que ça dit ici, mari, aimez vos femmes, on va essayer de voir quel amour que le Seigneur parle concernant notre engagement d'amour envers notre femme. Premièrement, le premier mot qu'on se sert pour le mot amour, donc je crois que c'est sur cet amour-là que la majorité des mariages se fait aujourd'hui, c'est sur le mot eros ou érotique ou l'amour romantique. Est-ce qu'on devrait baser notre mariage tout simplement sur l'amour romantique? C'est beau l'amour romantique. J'ai rien contre l'amour romantique. Tout le monde aime la romance. On aime des histoires de romans. Je sais que ma femme aime toujours me dire, « As-tu vu un tel s'est assis avec un tel dans l'église? Penses-tu qu'il y a quelque chose qui commence entre les deux? » Puis, il aime ça, parler de ça. Pourquoi pas? Tout le monde aime des amoureux. J'ai rien contre ça. Mais est-ce qu'on peut bâtir un mariage sur l'érotique et le romantique seulement? Parce que voyez-vous, ça c'est l'amour d'Hollywood et c'est l'amour dans lequel que notre culture et notre société se servent pour commencer un mariage et pour débuter un mariage et la raison seulement pour se marier. Mais vous savez que cet amour-là est complètement et entièrement un amour de sentiment charnel et de thrill. Et puis, ce n'est pas un amour logique ou rationnel. Combien de fois que vous avez entendu parler d'une bonne jeune fille qui a tombé en amour avec un type qui se trouve être le type playboy, paresseux, violent, qui va lui donner de la difficulté toute sa vie. Et puis, quand elle va venir voir sa mère, elle dit, « Maman, il faut que je le marie, je suis en amour avec. » On va dire, « Il n'est pas bon pour toi. » Puisqu'ici, elle a raison, la belle-mère. « Il n'est pas bon pour toi. Il ne travaille pas. Il va te rendre la vie dure. Il prend ton argent. Il va te maltraiter. Il va te laisser là. Ah, ben maman, il va changer après qu'on est marié. » Oui, mais il va changer pour le pire. Ouais. Mais on ne peut baser un mariage seulement sur cet amour-là. Combien parmi nous, les hommes, que lorsqu'on a eu le coup de foudre, et puis peut-être c'est arrivé pendant que tu étais en chaloupe au clair de lune, sur le bord du Mont-Tremblant, dans le lac, et puis tu jouais à la guitare, puis tu as regardé dans ses yeux, tout d'un coup tu as ressenti le thrill, puis là tu es tombé en amour. Et combien d'hommes, pendant ce moment-là au clair de lune, qui ont fait toutes sortes de promesses, comme je vais nager l'océan la plus large pour toi, je vais grimper la montagne plus haute pour toi, je vais tout faire, demande-moi la lune, m'a t'a donné, demande-moi n'importe quoi, je t'aime chérie, je veux tout faire pour toi, laisse-moi démontrer mon amour pour toi, je veux tout faire. Un mois après qu'ils sont mariés, ils demandent, chérie, sortiras-tu vidange? Écœure-moi pas, sors-les toi-même! Je vois que tout le monde a passé par là. Ouais. Cet amour est complètement et entièrement un amour charnel. C'est un bon début, c'est vrai qu'on devrait tomber en amour, on n'a rien contre cela, mais on ne peut baser un mariage seulement sur cet amour. Car c'est un amour souvent seulement passagère, et c'est pour cela qu'il y a tellement de divorces dans notre société aujourd'hui, parce que combien de femmes ou de mari a entendu ces mots-là, « Je t'aime plus ». Qu'est-ce qu'il veut dire par « Je t'aime plus » Ça veut dire que j'ai rencontré un autre qui me donne un plus gros thrill que toi. J'ai rencontré un autre, là, j'ai perdu tout le feeling que j'ai, et puis j'avais pour toi, et là, j'ai tombé en amour avec un autre. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que quand que je t'aime avec l'amour érotique ou romantique, je t'aime pas pour toi-même, mais je t'aime pour le feeling et le thrill que tu me donnes. Puis aussitôt que le thrill et le feeling est parti, je ne veux plus rien savoir de toi. Fait que ce n'est pas un amour, un vrai, véritable pour la personne, c'est un amour complètement et entièrement égoïste. Combien de fois qu'on a lu des drames, ou ce que j'ai lu une fois qu'une femme aimait tellement son amant que quand il lui a annoncé le soir, puis ils vivent ensemble, il a annoncé qu'il allait ça le lendemain pour un autre. Elle l'aimait tellement que pendant qu'il dormait, peut-être qu'il était en état d'ébriété, elle a pris une bouteille de rhum, puis elle l'a arrosé, puis après ça, elle a mis le feu après. Quel amour! C'est un amour complètement et entièrement égoïste. Est-ce qu'on peut bâtir un mariage là-dessus? Deuxièmement, tu as l'amour philios. L'amour philios, ça, c'est l'amour amical. Il y a des gens qui se marient seulement en cause d'amitié. Il n'y a pas de mal là-dedans non plus, pour la simple raison qu'on devrait se marier pour avoir de la compagne aussi. Puis il y en a qui vont rencontrer peut-être quelqu'un, puis ils vont avoir une bonne communication avec les autres, ils se sentent à l'aise avec eux. On va dire, ben, toi, t'aimes l'équitation, moi, j'aime l'équitation. T'aimes la musique classique, j'aime la musique classique. T'aimes le sport, j'aime le sport. T'aimes aller à l'église, j'aime aller à l'église. Et puis, vous savez que même sur le côté psychologique, on appelle ça l'amour platonique, un arrangement platonique, sur le fait que les deux, parce que ils ont beaucoup en commun ensemble. Au lieu de vivre seuls, ils ont décidé, bon, on va se marier sur l'aspect philios, parce qu'on est des bons amis, on est à l'aise ensemble. Et on appelle ça un amour platonique. En voulant dire, c'est plate. Mais combien parmi nous ont gardé un ami après que l'ami nous a laissé tomber? Fait qu'on ne peut bâtir le mariage sur l'amour filios, que ceci, c'est seulement un amour passager. En voulant dire, je vais demeurer ami avec toi, aussi longtemps que toi, tu es amical. Aussi longtemps que toi, tu es aimable. Mais si jamais que tu fais quelque chose pour me laisser tomber, on laisse tomber cet arrangement-là ici, et on s'aperçoit qu'on ne peut bâtir un mariage sur cet amour. Le troisième mot pour l'amour, le mot amour concernant le mot grec, c'est agapé. Agapé, ça veut dire un amour d'engagement, un amour sacrificatoire. Et quand on dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », ça, c'est un commandement, c'est un amour d'engagement sacrificatoire. Comme tu fais à l'autel quand tu dis « Je m'engage à t'aimer dans les bons et les mauvais jours ». C'est justement l'amour agapé parce que tu t'engages à t'aimer. En voulant dire, ça peut arriver que des fois dans sa vie, qu'elle ne sera pas aimable, mais tu vas l'aimer quand même. C'est un engagement. Ça dit quoi? Marie, aimez vos femmes. De quelle façon? Qu'est-ce qui s'est servi comme exemple? De la même façon que Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Ça, c'est le vrai amour. Parce que ça, c'est un amour d'engagement et je m'engage à t'aimer pour qui tu es et me donner à toi. Et je t'aime pour toi-même et non pas pour seulement ce que toi, tu peux me donner. C'est ça qui est la grande différence. Comme Jésus a aimé son Église et s'est livré pour elle. Ça, c'est l'amour sacrificatoire. Ça, c'est l'amour de la foi. Ça, c'est le vrai amour pour le mariage dans lequel on peut le baser. C'est l'amour chrétien, parce qu'on sert du même mot. Quand ça dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », ça veut dire « Marie, agapez vos femmes comme Christ a agapé l'Église ». Quand on dit dans Jean 3,16, on va citer ce verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croise en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle », on sert encore du même mot. On dit « Car Dieu a tant agapé le monde ». Quand on dit dans Jean « Dieu est amour », on dit « Dieu est agapé ». Voyez-vous que c'est je veux en tenir? Fait que quand que tu vas aimer ta femme et quand tu vas te marier, tu te maries dans le but d'appliquer l'amour agapé, l'amour sacrificatoire, je m'engage à t'aimer dans les bons et les mauvais jours. Et ça, c'est l'amour éternel que c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui va subsister. Et je dois dire aujourd'hui que j'aime mieux ma femme encore que dans les premiers temps qu'on s'est mariés. Car cet amour-là, que, dans lequel que je l'aime et qu'elle m'aime, c'est un amour ça, qui est éternel, qui grandit et qui solidifie et qui est plus sécuritaire que n'importe quel autre amour. Ça ne veut pas dire des fois, on s'en va justement prêcher dans le bout de Paris, au mois d'avril, qu'on n'aura pas un petit temps romantique à quelque part à l'entour de l'Arc de Triomphe, mais, tu sais, après tout, on a été mariés seulement 27 ans. Tu dois avoir de la romantique dans ta vie quand même. Tu dois avoir aussi de l'amitié dans ta vie. On devrait être amis aussi bien avec notre époux et épouse, avec notre mari et notre femme. Mais la vraie base de notre mariage, c'est l'amour de Dieu. On s'engage, c'est n'importe quoi. Quand on s'est engagé avec l'amour sacrificatoire, c'est là qui fait toute la différence. Le deuxième engagement que vous prenez, Marie, lorsque vous êtes à l'autel, c'est l'engagement de respecter et honorer. Ça, c'est donc important. Ça, c'est d'important. Et là-dessus, souvent, ma femme prend des notes puis elle me le remet sur le nez. Mais sur ce côté-là, puis je suis obligé de revenir, m'excuser. Mais parce que notre problème, Marie, c'est mon problème à moi, c'est l'idée qu'on fait l'erreur de prendre nos femmes pour acquis. On prend trop nos femmes pour acquis. Et puis vous allez voir que vous agissez beaucoup moins en gentleman avec votre femme que quand vous agissez avec d'autres femmes. Vous êtes beaucoup moins poli avec votre femme que vous êtes poli avec d'autres femmes. Ça arrivait souvent que ma femme me reprit, parce qu'elle dit, garde en cours, là, tu viens d'ouvrir la porte de l'auto pour cette femme-là, puis tu fais jamais ça pour moi. Regardons ensemble dans 1 Pierre, le 3e chapitre, verset 7. 1 Pierre 3, 7. Ça, c'est bien important. J'aimerais que vous lisiez avec moi, s'il vous plaît. Ça dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi irriter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit ici? Que Dieu attache tellement d'importance à la femme, assez d'importance même, qu'il a dit que si tu honores pas et si tu ne respectes pas ta femme, ça ne sert à rien de prier, tu vas avoir un obstacle à tes prières ne seront pas répondues. Fait que là, les femmes, quand que votre mari va vous dire, là, fais une secousse que je prie pour quelque chose puis je n'ai pas de réponse, vous pourriez lui dire pourquoi. Commence à changer d'attitude envers moi. Dieu ne te répond pas parce qu'il prend soin de moi. Tu veux une réponse à ta prière? Sors-moi un peu. Tu veux une réponse à ta prière? Apporte-moi des fleurs. Fais une date avec moi. Commence à me respecter. Honorer veut dire quoi? Honorer veut dire tout simplement d'arrêter de prendre notre femme pour acquis. Honorer, ça veut dire d'y rendre hommage ou honneur. C'est justement ça. Quand que tu lui apportes un cadeau, quand tu lui apportes des fleurs, quand tu sors pour manger au restaurant, tu l'honores. Tu fais un spécial. Tu lui dis qu'elle est spéciale. Ça, c'est honorer. Respecter, une chose aussi que je dois mentionner concernant honorer, c'est de ne, si on honore nos femmes, on ne parlera jamais en mal de eux. Allô? Je crois que parce que ça nous dit que notre femme est notre propre chair, et l'homme se fait beaucoup de dommages et enlève de propre crédibilité aux yeux de d'autres, lorsqu'il descend sa femme. Et on ne devra jamais, au grand jamais, parler mal de notre femme. D'ailleurs, je vais vous dire la même chose aux femmes demain. On ne devra jamais parler mal de nos femmes, mais toujours les honorer. Une personne qui parle mal de sa femme n'honore pas sa femme, pour aucune considération. Il devra toujours la monter et l'honorer. À cette heure, deuxièmement, il doit la respecter. De quelle façon qu'on respecte notre femme aussi? C'est de la façon qu'on va la traiter, la façon qu'on devrait être gentil avec eux. Et aussi, en même temps, on devrait la respecter et agir devant eux la même chose qu'on agit devant les autres femmes, les amis et les invités. Premièrement, notre apparence. L'apparence démontre beaucoup de respect. Quand je parle aux gens ici à l'Église qui sont placés, qui exercent un ministère, les pasteurs, les musiciens et tout. Puis je leur demande, quand vous venez à l'Église, sur tous les dimanches, on demande que vous portez un veston, la cravate. Ce n'est pas dans le but de se montrer beau, ce n'est pas dans le but d'un orgueil, mais c'est justement pour démontrer que je respecte assez les gens autour de moi pour me changer à leur présence. Et de bien paraître à leur présence. Parce que quand tu ne respectes pas quelqu'un, bien, tu t'en fiches de ton apparence. Mais si tu respectes quelqu'un, en cause de le respect que tu as pour un, tu vas toujours te changer. Tu sais, pareil comme moi, que si tu n'es pas rencontré un dignitaire ou quelqu'un responsable sur ton travail ou n'importe quoi, tu vas en faire un exprès à te changer. Si tu sors à quelque part, tu vas faire un exprès. Ça veut dire, l'apparence en vaut beaucoup. Mais c'est un peu dans la maison aussi. On prend tellement notre femme pour acquis que lorsqu'on arrive dans la maison, tu vas voir qu'on se promène en combinaison, puis en sous-vêtements, puis avec des cordes déchirées, puis peut-être aussi qu'on n'a pas pris notre bain, ça fait 3 semaines, et des choses de ce genre-là. Non? 3 mois? Ah. Ouais. Mais c'est vrai que ça a une certaine influence de toujours bien se comporter. Côté d'apparence, le côté du linge, le côté de notre physique. C'est pour ça que je suis obligé de souffrir le martyr pour aller au club, pour aller dans le bain sauna, puis le bain tourbillon, puis les bains de vapeur, puis reçuer au racquetball, puis essayer de parler des livres. Rien pour ma femme. C'est vrai pareil. C'est extrêmement important. Parce que si on s'attend à ça, nous autres, les hommes de eux, on est mieux d'être les premiers à montrer exemple sur ce côté-là. Aussi, les respecter en parole et en action. Je vais vous dire qu'un des problèmes qui se trouve à affecter le mariage, c'est parce qu'on prend trop nos femmes pour acquis jusqu'à un certain point où on commence à agir très en grossier. Agir grossièrement avec eux. Des choses qu'on agirait, qu'on ferait jamais avec d'autres. Et puis ça, c'est extrêmement important. En parole et en action. Puis le Seigneur le dit que si tu ne respectes pas puis tu n'honores pas ta femme, pense-y pas, tes prières ne seront pas répondues. Et je crois une des raisons qu'on souffre aussi de manque de réponse à nos prières, c'est à cause qu'on ne prend pas au sérieux le principe que Dieu a fait quelque chose de spécial quand il a fait les femmes, et puis il les a mis dans une position tout à fait spéciale. Assez spéciale que vous le savez, les hommes, que dans le passé, je me souviendrai, moi, que lorsque j'étais à petit bout de chou, que si on rentrait d'un ascenseur, une femme entrait à l'ascenseur, t'enlevais ton chapeau. Lorsque une femme voulait s'asseoir, tu place à la chaise pour elle, tu te levais dans la chaise. Si on était dans un salon, des hommes après jaser, une femme entrait, tous les hommes se levaient. La femme est quelque chose de spécial. Elle est sur un piédestal, elle est honorée. Je me demande pourquoi que la femme veut descendre au niveau de l'homme puis venir à l'égalité de l'homme. On entend parler souvent de l'égalité aujourd'hui, mais je dis que la femme, elle descend. Au lieu de monter, ça descend au niveau de l'homme. La femme est supposée être spéciale parce qu'elle peut être plus haute que l'homme. L'homme est supposé devenir son serviteur, est supposé de se livrer pour elle, est supposé de travailler pour elle, est supposé de tout faire pour elle. Sa vie est supposée être concentrée à l'entour de sa femme et ensemble devant le Seigneur. Comprenez-vous ce que je veux en dire? Puis il dit, si tu ne l'honores pas, tu ne la respectes pas. Il dit, tes prières ne seront pas répondues. Troisièmement, vous devriez la protéger et la garder. Et quand on parle de protéger et les garder, on parle, premièrement, spirituellement parlant, deuxièmement, physiquement parlant, et troisièmement, matériellement parlant. Premièrement, protéger nos femmes. On va regarder sur le côté spirituel, l'ordre divin de Dieu. Les femmes, je veux que vous sachiez que, comme j'ai mentionné, que Sam Lecomte ne donne jamais son opinion, mais il cite exactement la Bible et l'ordre divin de la Bible. Et on va regarder ensemble dans 1 Corinthiens, le 11e chapitre, 3e verset, qui dit ceci. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ça, c'est l'ordre divin, ça. Et puis, ça me dit ici que l'homme est le chef spirituel du foyer. Il est le prêtre du foyer. Et étant le chef spirituel du foyer, l'homme devra être le premier à dire, on va lire notre Bible, on va prier, on s'en va à l'église. Mais savez-vous que dans la société, et même dans la majorité des religions à travers de ce monde, on me dit, lorsque je vais aller visiter les églises en Europe, que la majorité des gens qui vont à l'église en Europe, c'est seulement que les femmes. Les maris restent à la maison. Mais c'est pas mal la même chose partout. C'est toujours la femme qui est prise à être la première à dire, « Viens, on va prier ensemble. » Ou c'est toujours la femme qui va dire, « Viens, on va lire notre Bible ensemble. » Ou c'est toujours la femme qui va dire, « Il faut aller à l'église. » Là, « Toi, réveille-toi, sors du lit, pas aller à l'église. » C'est la femme qui est obligée de te pousser. Mais ça ne devrait pas être le cas. Parce que le mari est premier. La femme, les enfants se préparent pour aller à l'église, à l'école de dimanche, puis le mari est encore en pyjama et est après lire les sports. Mais après qu'il est venu à un des séminaires à l'église évangélique de la Rive-Nord sur le mariage, regardez ce qui est arrivé. Alléluia! C'est ça qui devrait arriver. C'est ça qui fait toute la différence. Le mari devrait être le premier à lire la Bible, à prier, à aller à l'église et être un exemple pour le foyer. C'est ça que vous voyez, être un exemple pour le foyer. Je pense toujours à l'histoire que j'ai lue, où ce que le père avait l'habitude, les soirs, immédiatement après le souper, d'aller faire un petit tour à la taverne du coin. Puis il y avait un petit gars de 4 ans, puis il venait juste de tomber une belle neige fraîche, et puis habiller son petit gars de 4 ans pour qu'il joue avec sa pelle dans neige pendant que lui est à la taverne du coin. Et puis en sortant, s'en allant vers la taverne, il regarde en arrière, puis il voit son petit gars de 4 ans qui essayait de mettre les pieds, tu sais, dans les pas de papa dans neige. Tu sais, il essaie de suivre les pas de papa. Ouais. Puis papa s'est aperçu tout d'un coup que ses pas venaient à son petit gars de taverne. Allô? Ouais. Puis c'est là qu'il a réalisé, il dit, je m'en vais avec ça. Mais savez-vous, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. C'est bien important que lorsque Dieu nous a donné des enfants, qu'il nous a donné ces enfants-là dans le but d'être un exemple, puis les élever dans ses voies. Si on aime avec l'amour agapé, qui est l'amour sacrificatoire, c'est justement ça. Tu ne fais pas que ça te tente. Et puis, tu ne commences pas à prêcher à tes enfants. Savez-vous que c'est ça qui est la plus grande rébellion, mais qu'on parle demain après-midi concernant l'élever les enfants, sur l'aspect chrétien, on va réaliser que le plus grand problème dans notre société qui révolte les enfants aujourd'hui, c'est parce que les parents et le père ont imposé des standards, des exigences à l'enfant que lui ne pratiqua pas lui-même. Il n'y a rien qui va causer la rébellion comme ça, puis qu'on va dire que c'est injuste. Fait que spirituellement parlant, c'est lui qui se trouve être le prêtre. Il est le premier à faire réconciliation. Il est le premier à demander pardon. S'il y a un désaccord, puis lui doit montrer l'exemple. Et il faut réaliser qu'on a dit quoi? Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré pour elle. Qu'est-ce qui était le rôle principal de Jésus quand on dit qu'il s'est livré pour l'Église? Ça a été le réconciliateur entre nous et Dieu. Et le rôle du mari est le premier. Si jamais que les maris pourraient mettre leur orgueil de côté puis dire, ma femme, je m'en viens te demander pardon, je m'en viens te demander de m'excuser. Tu vas dire, ben oui, mais c'est moi qui avais raison. Ça n'a rien à faire avec ça. Jésus était le premier à souffrir sur la croix, puis il était parfait, puis il avait raison. Nous autres, on n'avait pas raison, mais il est venu être le premier à faire le pas de réconciliation, puis ça lui a fait mal. Tu peux au moins demander pardon pour avoir laissé la chose se dérouler jusqu'à un tel point que c'est devenu un problème dans la famille. Mais on devra faire le premier pas de réconciliation. C'est ça qui veut dire être chef spirituel. Les femmes, pour ça que lorsque vous demandez un rendez-vous avec moi, ça va arriver des fois que ma secrétaire va vous demander, moi je vais vous demander, est-ce que vous venez avec votre mari ou est-ce que votre mari est au courant que vous appelez le pasteur? Soyez pas offensés quand elle va vous demander ça. Parce que voyez-vous, je demande toujours ça. Je ne raconte jamais une femme sans que son mari sache qu'elle vient me voir. Excepté dans un cas extrême où ce que son mari fait tellement tort qu'elle est obligée de prendre position. Mais en général, je leur demande toujours, « As-tu parlé à ton mari avant? Est-ce que tu viens me rencontrer avec ton mari? » Parce que voyez-vous, le mari est le pasteur et le prêtre spirituel du foyer avant moi. Même.
Ouais.
Puis les dames, si vous voulez encourager votre mari, là, mais donc il n'est même pas sauvé, quand même, jouez le rôle de lui donner sa position. On va vous dire ce que vous pouvez faire. Un bon matin, c'est vrai, vous êtes spirituel, plus connaissant dans la Bible que lui. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire un bon matin, là, arriver avec, à votre mari et dire, « Sais-tu, chérie, je t'ai appris à lire ma Bible un matin, là, puis il y a un verset ici que je ne comprends pas. Tu sais, je ne sais pas si tu pourrais me l'expliquer. » Le mari, il va dire, là, je suis pressé pour le moment, là. Quel verset que c'est encore, là? Puis il écrit ça sur le papier. Il dit, même pensée, puis je te donnerai des nouvelles. Là, lui, il s'en va au bureau, puis dans le courant de la journée, il m'appelle. Puis il dit, pasteur, il dit, ma femme m'a demandé concernant un verset, là, que ça veut dire, ça. Puis là, je sors ma concordance, puis je lui explique, ça me donne la chance de le connaître un peu et tout, l'affaire-là. Puis, merci beaucoup, pasteur. Là, il s'en va chez eux le soir. Puis là, il dit le verset, tu me demandais un matin, là. Il dit, après avoir fait des recherches. Hein? Voyez-vous que si vous venez de faire, vous venez d'y donner sa place, là, comme chef spirituel. C'est ça qu'on devrait faire. C'est ça que le mari devrait faire aussi. Deuxièmement aussi, physiquement parlant, il devrait protéger sa femme de l'abus des voisins et des enfants, et surtout de Satan. S'il est le chef spirituel, il va premièrement protéger son foyer, sa femme, en priant régulièrement pour eux, en élevant toujours sa famille devant le Seigneur. Il n'y a pas une journée que je passe que je ne prie pas pour ma femme et mes enfants, chacun. Puis à tous les jours, je vais toujours dire, « Seigneur, protège la famille du malin et du péché. » Tout le temps. On devrait le faire. Je devrais la protéger si je suis le chef spirituel, si je suis un vrai mari. Deuxièmement, la protéger aussi contre l'abus des voisins. J'endurerai jamais personne m'a abusé ma femme pour aucune considération. Et puis elle sait, il a fallu que je fasse face à d'autres à cause de ça. Mais jamais. Puis troisièmement, où ce que je trouve qui est pitoyable, les maris, puis on va en parler encore plus demain soir, c'est qu'il y a trop de maris qui laissent les petits-enfants et leurs enfants abuser leur mère. Les envoyer se promener, puis charrier, puis répéter, répliquer à leur mère et chicaner leur mère. Je vais vous dire, moi, que c'est arrivé qu'une fois, ça, que j'ai parlé fort à ma mère. Je me souviendrai toujours, j'avais environ 10 ans, et puis mon père travaillait à ses chemins de fer, puis il avait une grosse main dure, et puis c'était tout un gaillard assez fort. Puis, habitué, il se levait à 5 heures le matin, priait à 6 heures, partait pour le travail. Puis, le lundi matin, je filais marabout, tu sais comment ce que c'est, dans le mois de mars, c'est crevasse dehors, et puis le moulin lavé, bloum, 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 puis tout allait mal le lundi matin, j'étais fatigué, puis ma mère essayait de me lever, ah, laisse-moi tranquille, là. Et puis, là, j'ai commencé à bourrasser pas mal. Je me souviendrai toujours, là, à table, elle me donne une balle de convertible de céréales. Je veux pas ça, moi, t'es pas capable de faire autre chose que ça. Je t'écœurais, puis je criais après ma mère. Mais que je savais pas, c'est mon père était malade ce matin-là, puis il avait resté à la maison. D'un coup, que ce que j'aperçois dans le corridor en combinaison avec une grosse verge? À quel honneur tu cries après ta mère, toi? Il me l'a cassé sur le dos. Puis jusqu'aujourd'hui, je le remercie pour cela. Prenez-vous, vous garantis, je n'ai jamais, jamais répliqué ma main. C'est malheureux, ça, qu'on s'est débarrassé de la verge. On va en parler demain après-midi. Mais je crois que notre rôle comme chef est aussi de protéger nos femmes contre même l'abus de nos propres enfants. Troisièmement, aussi, sur le côté matériel, en voulant dire travailler. 1 Timothée 5,8 dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il la renie à la foi et il en est pire qu'un infidèle. » Ça, c'est des paroles sévères. « Il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Là, j'aimerais être un peu franc avec vous. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est fidèle, lui. Puis on a dit que Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Puis je le sais, madame, je le sais les femmes ici, je vous le dis, qu'il y a des fois qu'il peut arriver un malheur à votre mari. L'usine s'est terminée, a fermé, il se trouve sans emploi, mais vous le savez que c'est un travaillant cœur. Vous le savez que ce n'est pas de sa faute, puis vous devriez l'appuyer 100%, puis jamais le narguer, mais de trouver une façon de lui rendre la vie facile, et puis de l'appuyer, de prier pour lui, et des choses de ce genre. Mais je veux vous dire ici, Marie, puis on a eu l'expérience, puis les gens qui se font plus de 2-3 ans qui viennent à notre église, ils savent ce que je veux dire. Je me souviendrai toujours, lorsqu'on a eu le temps où les intérêts ont grimpé, puis on a eu une grande difficulté financière, il y a plusieurs personnes qui sont vues sur le chômage à l'église. Mais savez-vous ce que j'ai dit? J'ai dit, si Christ est réellement ton chef, va le voir, puis prie-le, puis dis, il faut qu'il te prenne pour l'église. Il n'y a rien que les messieurs, là, qui va donner une sécurité quand même à votre femme, et que vous allez reprendre le respect de votre femme, que si jamais vous êtes sans emploi, levez-vous quand même à 5h30 du matin, 6h, venez donc prier première heure dans la chapelle ici. Si moi, je suis capable de me lever à 5h30 pour venir prier ici, puis je viens ouvrir la chapelle ici pour 6h30, comment vous ne travaillez pas? Il n'y a rien qui vous empêche de venir prier ici. Puis j'ai lancé le défi, puis j'ai dit aux gens qui étaient sans emploi, j'ai dit, venez prier premièrement, et deuxièmement, par la suite, là, vous allez tracer une journée où vous allez chercher des jobs, puis dire, Seigneur, conduis mes pas, et le Seigneur va me trouver une job. Puis pendant que vous n'avez pas de job, venez donc faire des petites jobines dans l'église et travailler pour le Seigneur. Mais je vous garantis que le Seigneur, lui, jamais qu'il est un débiteur de l'homme. Et puis, si vous venez travailler pour lui, à quelque part, il va vous bénir financièrement. Votre femme va être dans la sécurité de savoir que vous vous levez au lieu de chialer dans la maison et dire, il n'y a pas de job. Venez prier, le Seigneur va vous en trouver une. Et on s'est aperçu qu'en dedans d'un an, tout le monde savait trouver un travail dans l'Église. Parce qu'il est là, lui, sur le trône. Puis, si tu veux travailler, il va t'en trouver du travail. Mais si tu veux te fier sur le bras du gouvernement tout le temps, tu n'en trouveras pas de travail. Tout le monde peut avoir un temps de malchance. Tout le monde peut passer un temps de difficulté. Tout le monde peut arriver, peut perdre son emploi. Moi, le premier, vous n'avez seulement pas venir pour 2 dimanches matin de fil, puis je me le prie. Ouais. Mais ça, pourvu que nous, on fait notre part, je vous garantis sous la parole de Dieu, parce que si tu bâtis ta maison sous la parole de Dieu, tu vas rester solide. Qu'arrive quoi que ce soit, tu ne seras jamais ébranlé et Dieu va te prendre pour toi. Sois fidèle au Seigneur, puis lui va être fidèle envers toi. Puis on devra protéger en faisant un effort, en établissant un budget. Et si on fait cela, nos femmes vont nous comprendre, ils vont nous appuyer, puis ils vont se sentir dans la sécurité quand même qu'on n'a pas d'emploi, parce qu'ils savent que vous mettez le Seigneur le premier dans votre vie. Alléluia. Et terminer avec les hommes. Demain matin, à 9h, c'est les femmes. Amen. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sentez-vous libre, vous avez seulement vous lever, par exemple, si vous demandez la question, parce que on veut, que je dois répéter votre question pour la cassette. Linda, oui? C'est sa famille. Quand il parle des siens, c'est sa famille. Qu'est-ce qui appartient à sa femme et ses enfants? Ça, c'est les siens. Oui. Mais sans l'être comme tel, sur le fait quand même, on devrait pratiquer la charité chrétienne. Si jamais, moi, je ne verrai jamais ma mère, je ne la laisserai pas dans la rue. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais premièrement, je prenais soin de ma famille. Mais dans le temps, ça pouvait dire aussi cela, parce qu'il n'y avait pas de service de bien-être comme aujourd'hui pour les vieillards, les choses de ce genre. Et puis, une des raisons pourquoi que vous voyez dans le tiers monde, pourquoi qu'ils ont 10 puis 15 enfants, vous dites comment ils sont si pauvres et ils veulent tellement d'enfants? Parce que vous savez qu'ils il y a toujours une certaine majorité d'enfants qui meurent, mais ils ont toujours l'espoir qu'au moins parmi les 15 enfants qu'ils vont avoir, qu'il y en a 5 qui vont rester vivants, qui vont prendre soin d'eux dans leur vieil âge. C'est leur sécurité, ça, pour plus tard. Fait qu'on devra prendre soin l'un de l'autre. Mais en réalité, c'est sa femme et ses enfants. Ça, c'est les siens. Ça lui appartient. Une autre question. Oui, sœur. Que suffit qu'on ne parle pas du mot divorce, pourquoi faire un contrat de mariage avant de se marier chrétiennement si on n'a pas l'intention de se divorcer? Ça peut être négatif, ça. Je suis content que tu apportes ça ici. Tu apportes ce sujet-là. Premièrement, c'est sûr que on a toute l'intention, on a des bonnes intentions de ne pas se divorcer. Mais quand même, la loi prévoit pour une protection. Okay. Aujourd'hui, le contrat de mariage n'est moins nécessaire qu'avant. Le v'là un temps, à cause de la façon que la loi est à fait, qu'on suggérait que la femme prenne un contrat de mariage surtout pour elle, pour sa protection. Parce que le fait qu'elle ne va pas travailler à l'extérieur, si jamais que le mari l'abandonnait, elle n'avait aucune scène. Mais aujourd'hui, la loi est changée, puis elle a une protection, une séparation de biens. Fait que tu n'as pas besoin de contrat de mariage comme avant. Et puis, s'il y en a qui veulent l'avoir, ils peuvent l'avoir quand même. Je ne le recommande pas. Mais si quelqu'un veut l'avoir, je ne juge pas non plus. Parce qu'on sait qu'on ne veut pas parler de divorce, on n'a pas l'intention de divorcer, mais on manque pas de foi, mais quand même, on agit sagement. Ça, c'est pareil comme quelqu'un qui va prendre des assurances vie. Tu n'as pas l'intention de mourir, tu crois que le Seigneur va prendre soin de toi, tu veux croire en lui, mais moi, je peux croire en le Seigneur, mais le pilote dans lequel je suis dans l'avion, je ne sais pas s'il lui croit en Dieu, par exemple. Fait que juste en cas, j'ai des assurances quand même pour être sage envers mes enfants. Donc, c'est une question de juste d'être sage et d'être prudent, parce que ta spiritualité dépend de toi-même, mais tu ne peux pas te fier jamais sur la spiritualité d'un autre, par exemple.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.